Afida Goun est née à Saint-Étienne en 1973. Cependant, entre 2 et 4 ans, on l'envoie vivre en Algérie, ce qui le marquera à jamais. Une fois revenu en France, il poursuit des études de lettres. Il voyage beaucoup et il s'installe enfin à Paris en 2002, où il mène depuis une vie plutôt casanière, propice à l'écriture. En 2004, il publie son premier roman, Les Avenirs, accueilli de manière dithyrambique par la critique et les libraires et récompensé par 2 prix littéraires, dont le prix Félix Fénéon. Son second roman, Quelle nuit sommes-nous, paru en 2005, enthousiasme toujours autant la critique. Il publie encore Premières heures au paradis en 2008 et Rêve 78, un récit inspiré par une photo de l'auteur à 5 ans et de sa mère. Passionné par le livre sous toutes ses formes, Afida Goun s'est également intéressé au métier du livre.
En fait, je sortais de l'université, j'avais fait donc une licence de lettres et une licence d'histoire de l'art. Et je m'étais dit que, bon, j'écris, c'est ma vocation, j'ai envie de faire ça toute ma vie, mais j'aimerais bien apprendre de vraies choses concrètes pour une professionnalisation dans le livre. Et en fait, j'ai trouvé ce DUT métier du livre. Il y en avait 9, 10 en France, et j'ai choisi celui d'Aix-en-Provence pour son option édition.
Et qu'est-ce que vous avez fait spécialement là?
En fait, il y avait des cours avec des professeurs qui étaient tous professionnels dans leurs cours. Donc, il y avait des cours d'édition, de librairie, de fabrication du livre, d'informatique, de droit d'auteur. Tout était centré sur la chaîne du livre, de sa fabrication à sa vente. Et moi, ça me passionnait puisque enfin, j'apprenais quelque chose qui me passionnait. Et je sentais que j'aurais pu faire un métier dans le livre. Et même si j'ai fait ça un peu comme un prétexte pour avoir une vraie base professionnelle. Et en fait, c'était 2 années passionnantes où j'ai vraiment appris des choses qui avaient du concret dans la société. Je savais pertinemment que je serais jamais éditeur ou libraire, mais de connaître et d'avoir cette formation, ça me plaisait beaucoup parce que je savais que je serais écrivain. Au moins, j'avais l'impression de savoir d'où je venais. Un peu comme un cinéaste qui a envie de réaliser des films et qui a envie aussi de connaître comment on maquille un comédien, comment on fait un décor. Et ça fait partie d'un univers. Et l'univers du livre m'intéresse absolument dans vraiment son ensemble.
Aujourd'hui, les éditions Jo Losfeld ont sorti Rêve 78, un livre de 64 pages, me semble-t-il bien. Mmh. Un hommage à votre mère. Et je ne peux que penser aussi à Albert Cohen et à le livre de ma mère.
Ah oui, oui. J'avais envie de faire un livre sur ma mère, mais j'ai jamais su comment l'aborder pour qu'il y ait ce rapport que j'ai toujours eu avec mes textes, c'est-à-dire un rapport sincère et non pas d'auteur et d'autorité en me disant « je vais faire un livre sur tel sujet ». Et là, l'ouverture est venue de cette photo que j'ai vraiment regardée attentivement et le texte est sorti comme ça. Et c'est vrai que le texte de Cohen, le livre de ma mère et aussi « Enfance » de Nathalie Sarraute, « Les mots » de Sartre sont des livres clés où on peut comprendre certaines choses d'un auteur. Et j'avais envie de commencer par cette photo pour arriver à dénouer des petits liens que j'avais déjà dénoués dans mes précédents livres. Et là, c'est vrai que cette image-là de la mère et de l'enfant, de se plonger dans cette chose un peu comme Barthes décrit les signes, j'avais vraiment envie de me trouver en face de l'enfance et en face de la clé de tout. C'est-à-dire ce départ en Algérie, comment ma langue, le français, m'a été quelque part volée, comment je l'ai retrouvée. Et tout ça est tellement lié que tout se résumait dans cette photo. Cet instant saisi, aujourd'hui, je me dis c'est évident que ce soit devenu un livre. Alors que jamais j'aurais pu me dire ça avant. Et c'est vrai que la restitution comme ça de ces couleurs un peu nostalgiques, un peu rêvées, on ne sait pas trop où on est. En même temps, on sent presque le vent sur les visages. C'est quelque chose de très très intrigant, très poignant aussi pour le lecteur que j'ai été, le premier lecteur de cette photo, puisque je me suis amusé à lire cette photo vraiment.
Ouais. Et quand est-ce que vous avez trouvé cette photo?
Ben en fait, cette photo, je l'ai toujours eue. J'ai un album photo, mes parents ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'albums. Mon père est passionné par la photographie et il nous prenait très, très souvent en photo. Donc du coup, on a toujours eu l'habitude d'avoir plein d'albums. Et quand j'ai quitté mes parents, j'ai quitté Saint-Étienne pour vivre à Lyon, faire mes études et ensuite m'éloigner petit à petit de plus en plus, parce que je suis parti à Aix-en-Provence, 9 mois à Venise, où j'ai écrit « Quelle nuit sommes-nous », ensuite maintenant Paris, puis plein de voyages. J'ai toujours eu mon petit album à moi, qui était un patchwork de tous ces albums. Et j'avais choisi des photos comme ça.
Ah oui.
Et cette photo en faisait partie. Et l'an dernier, je l'ai sorti, je l'ai regardé comme il faut. Mais cette photo était importante parce que elle résumait déjà, même si j'avais pas la conscience qu'un jour j'écrirais un livre sur cette photo, elle a toujours été importante pour moi. De temps en temps, je la posais devant moi sur mon bureau. Et c'est vrai que j'ai envie aussi de d'écrire un autre texte sur une autre photo de cet album justement. Et ce serait un texte sur la fraternité, parce que j'ai un frère, on a 6 ans d'écart, et j'ai envie d'écrire un texte sur ce rapport de deux frères. Et il faudrait que je trouve la bonne photo. Il faut qu'il y ait cette magie qui arrive. Si elle n'arrive pas, j'écrirai pas le texte.
Vous êtes né en 1973 à Saint-Étienne, mais vous avez également vécu en Algérie. Puis vous avez fait, comme vous avez dit aussi, plusieurs voyages, des voyages importants. Vous voulez nous parler un petit peu de ce côté qu'on peut appeler vagabonde?
C'est vrai que passer de l'âge de 2 ans à l'âge de 4 ans, une partie du noyau d'une vie, où entre l'âge de 2 ans et 4 ans, beaucoup de choses se passent dans la linguistique, dans le rapport au monde, et tout ça passe par la mère. Et la mienne n'était pas là, donc j'ai été élevé par ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, dont je parle dans les avenirs. Et ce rapport immédiat à l'étrangeté...
En Algérie.
Oui, en Algérie. Donc c'était en Algérie. Je suis né à Saint-Étienne et j'ai grandi à Saint-Étienne jusqu'à l'âge de 2 ans. Et donc je suis parti en Algérie, mon père m'a envoyé chez sa mère, et j'ai grandi donc dans l'inconnu. Dans l'étranger, avec une langue étrangère, un mélange d'arabe et de kabyle, puisque c'était entre les deux, parce que mon père est d'origine kabyle. Et donc, d'être plongé comme ça, en même temps dans l'inconnu, le vaste, l'espace, et aussi, quelque part, l'enfermement, puisque il n'y avait aucun moyen d'échapper à cet exil forcé et précoce. Quelque part, moi, je me dis souvent que c'est comme ça que je suis devenu écrivain, puisque c'est cette expérience-là, du hors de soi, du hors la mer, etc., que la vie intérieure est devenue très importante immédiatement. Et du coup, à mon retour, à l'âge de 4 ans, quand je suis revenu en France, j'ai refusé de parler. J'ai eu un silence, un mutisme, puisqu'il y avait une langue en moi qui n'était pas la mienne, et il a fallu que le français revienne, et il est revenu tout seul, de façon impeccable et limpide. Et j'ai été scolarisé, et du coup, je deviens un enfant comme tous les autres, d'extérieur. Mais intérieurement, la poésie était là. Le silence, le vent, la poussière, le désert, tout ce que j'aime chez Edmond Jabès, par exemple, des choses comme ça, sont venus. Et du coup, d'apprendre à lire, à écrire, dessiner, lire des poèmes, tout ça était devenu essentiel, alors que j'avais 6 ans.
Et donc, quelle nuit sommes-nous, le personnage principal qui s'appelle Samuel Tristan, là, il était au Morac quand il s'est dit, le jour, je vous cite, le jour où j'ai dit qu'il y avait du sang juif en moi, j'ai compris qu'il fallait partir.
Oui, c'est un texte très particulier, quelle nuit sommes-nous, puisque c'est un texte que j'ai écrit à Venise, alors que j'étais en train de travailler les avenirs. Et une nuit, je vivais dans un atelier de peintre, dans le quartier de l'Arsenal. Et ce personnage de Samuel Tristan est venu frapper à la porte quelque part. Et j'ai écrit un texte que j'ai gardé, que j'ai retravaillé après, qui est devenu « Quelle nuit sommes-nous ?». Et ce texte ne parle pas de l'enfance, puisque je raconte pas l'enfance de Samuel. Il commence à l'âge de 15 ans avec cette fugue. Et c'est un jeune homme qui se pose les questions profondes que je me suis toujours posées, et qui va au bout de son errance et de sa fugue. À l'âge de 15 ans, j'ai fait une fugue aussi, mais qui a duré 3 jours. Et Samuel, lui, c'est vraiment le prolongement de toute ma nuit, de toutes mes peurs, de toutes mes hantises. Ces passages où il est en train de se battre contre les ronces sur l'île, puisqu'il garde une île en face de derrière la Judéca. C'est un personnage qui se découvre pas juif, qui ne se découvre pas romantique, idéaliste. Il a toujours été ce qu'il a été. Mais un jour, il décide de se déraciner et d'aller au bout d'un élan, d'une inspiration. Et ça, c'est un livre qui parle de la fuite. Moi, j'ai toujours été fasciné par la fuite. Toujours été fasciné par ces gens qui, du jour au lendemain, disparaissaient. Et en même temps, ça m'a toujours fait peur. Je me suis dit, oh, mon Dieu, j'espère que je suis pas vraiment comme ça, puisque il faut aussi vivre avec les autres. Il faut aimer, il faut construire des choses. C'est vraiment un livre où j'ai voulu mettre fin, en fait, à tout ce que j'ai craint dans ma vie par rapport à cette expérience de l'exil précoce. Parce que c'est des choses qui peuvent aussi détruire quelqu'un, qui peuvent oui. le faire dérailler, qui peuvent l'emmener dans des chemins obscurs. Et j'avais envie que ce personnage-là, quelque part, ne trouve pas son salut par les livres, mais se dise qu'en fait, le salut, c'est les autres. Et la fin, c'est une fin, pour moi, c'est une fin symbolique, où peut-être que Samuel quitte Samuel. Que j'ai quatre origines différentes. C'est des questionnements que j'ai toujours eu et que j'aurai toujours. Je me suis toujours senti humain, j'ai toujours eu envie de voyager et j'ai toujours senti que les racines, c'était vraiment des choses impalpables. Les racines, on peut trouver de soi au Mexique, on peut trouver de soi au Brésil. Moi, je suis allé au Brésil, c'était pour la traduction des avenirs et c'est un des pays où je me suis senti le plus chez moi, alors que c'est pas chez moi. Mais c'est peut-être le métissage, le mélange, l'histoire. Ça a été la même chose à Lisbonne, des endroits comme ça où je me suis dit, mais je pourrais très bien être né ici, avoir grandi là, venir tous les jours dans ce café. Et cette appartenance au multimonde, moi, je l'ai toujours ressentie. Les racines, c'est une chose qu'on peut pas fuir. Et ça, je l'ai compris aussi et en écrivant d'ailleurs, en questionnant pour savoir qui je suis et où j'ai envie d'aller. Je me suis toujours rendu compte que même si j'ai grandi dans un milieu laïque, avec des parents pas religieux, avec cette volonté de républicaine, en fait, d'avoir des enfants qui travaillent à l'école, qui font un métier, qui choisissent plus tard ce à quoi ils veulent croire ou ne pas croire. J'ai grandi dans ce côté un peu neutre, où rien n'est imposé. Ça a été la force de mon père, d'ailleurs, dans son éducation, c'est de nous inculquer à moi et à mon frère que dans la vie, un homme doit être libre. Et ça a été un exemple, quoi. C'est vraiment quelque chose de très important. Même si dans Rêve 78, je parle d'autre chose, oui. du côté paternel. C'est pour ça que je parlais de l'océan, du tumulte et tout ça. C'est que lui-même avait ses propres peurs. Mais quelque part, il avait aussi ses lumières.
Donc, vous avez parlé des quatre racines différentes. Il y a votre mère juive, votre père algérien.
En fait, ma mère est moitié juive, moitié berbère marocaine. Elle est née à Oujda.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, et mon père est kabyle et espagnol par sa mère. Donc, son père est kabyle et sa mère
oui.
andalouse. Donc, tout ça, c'est un terreau méditerranéen.
Ouais,
c'est vraiment le même coin avec toutes ces histoires de conquête et d'individualité, mais aussi d'histoire avec un grand H. Et enfant, j'ai le souvenir d'avoir clairement en face de moi un Algérien, une Marocaine. C'est drôle de voir ses parents, même dans l'humour, se rappeler que oui, mais moi je suis l'Algérien, toi t'es la Marocaine ou des choses comme ça. Et j'imagine très bien d'autres couples avec d'autres origines faire la même chose. Et cette dualité là fait que j'ai grandi dans l'idée que on pouvait, oui c'est vrai, avoir plusieurs pays, faire cohabiter moi-même dans mon couple, ma compagne est moitié sicilienne, moitié du nord de la France. Donc je perpétue quelque part ça aussi, ce mélange.
Mais il y a une autre citation où vous dites « d'être aussi libre qu'une femme ». Peu d'hommes savent l'être. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Pour moi, la plupart des hommes se pensent libres, pensent avoir du pouvoir, pensent avoir une emprise sur le monde extérieur, sur leur épouse, sur leur maîtresse, sur leurs enfants. Mais j'ai toujours eu la conviction que la liberté et le vrai pouvoir, c'était quelque chose d'invisible et de non exprimé. Il y a des personnes qui n'ont jamais été plus libres qu'elles ne sont et qui ont été même plus libres que leur tyran. Et c'est quelque chose d'intérieur, en fait. C'est un rapport avec la conscience. Parce que quelqu'un qui exerce son pouvoir ou son autorité alors qu'il est lui-même sous son emprise à lui, de sa propre colère, de ses propres peurs, n'est pas libre, en fait. Alors que quelqu'un qui subit quelque chose, mais par compassion, subit, reçoit, étouffe, c'est quelqu'un qui, en fait, est fort, qui reçoit.
Vous pensez que c'est plutôt un côté féminine.
De manière générale, oui.
De manière générale.
Moins
oui.
aujourd'hui, mais de, parce oui. que c'est faut voir en France, hein, depuis très peu de temps, les femmes peuvent voter, elles ont des
oui,
droits, alors que dans d'autres pays, c'était
oui, oui, oui.
même en Turquie, c'était avant oui. qu'elles pouvaient voter, avant les Françaises. Il y a des choses qui sont ancrées et qui mettront des siècles à disparaître dans l'inconscient de chaque personne. Et pour moi, par rapport au destin d'une femme, et je le vois par rapport au destin de ma mère qui, à l'âge de c'est ce que je raconte là, à l'âge de 15 ans, a décidé de quitter ses parents, a empêché un mariage forcé, a trouvé un travail, même si c'était dans le cartonnage, ça aurait pu être dans un autre domaine, je crois que c'était dans le polystyrène, mais elle a pas senti cette usine, elle s'est pas sentie dans un endroit qui... C'est quelqu'un qui a quitté sa famille pour être libre, pour ne pas être marié de force, pour ne pas subir tout ce qu'elle a subi avec ses frères, ses demi-frères, demi-sœurs, d'être un peu la bonne de toute cette famille. Prendre son destin en main, c'est pour ça que cette phrase « être libre comme une femme », c'est la femme, c'est ma mère en fait.
Oui.
Et après, j'extrapole dans ce que je ressens autour de moi, je vois une femme... Dans Paris, par exemple, une jeune femme, c'est harcelée tous les 10 mètres. C'est alpaguée, c'est appelée, c'est tous les 10 mètres. Et nous, on s'en rend pas compte. On se rend pas compte du harcèlement que c'est d'être une jeune femme. On me le raconte, hein. Ne serait-ce que de se mettre en jupe une journée, c'est infernal. Premières heures au paradis, c'est vraiment un livre sur ce jeune comédien Théophile Canan et encore une sonorité biblique.
Qui est, ouais. qui est aussi amoureux d'une jeune écrivaine.
Ouais. Et donc David Lynch, il me fallait un cinéaste puisque je voulais que mon personnage soit révélé par quelqu'un puisqu'il a des rapports conflictuels avec son père qui est quelqu'un d'absent. C'est un personnage qui est orphelin de sa mère et son père était absent. Donc j'avais envie que mon personnage... trouve une nouvelle figure qui l'aide à devenir un homme chez quelqu'un qui soit à la fois intelligent, talentueux, créatif, plein de talents. Lynch peint, fait ses films, enfin c'est quelqu'un oui. de complet. Et en même temps quelqu'un de simple qui humainement me permettait d'imaginer une relation dans leur rencontre. Et c'est quelqu'un qui tout de suite a été concret pour moi, incarné. J'ai tout de suite imaginé sa façon d'être, de s'asseoir, de discuter, de manger. Et ça a été naturel. J'ai pas hésité entre deux réalisateurs. Et comme il me fallait une grande figure, connue de tous, mais en même temps qui a un rapport sincère avec mes goûts esthétiques, j'ai choisi David Lynch. Parce qu'il a ce côté à la fois enfantin, et en même temps, c'est pas quelqu'un qui est démagogique et qui se dit grand artiste. C'est quelqu'un qui fait ses films dans son imaginaire. Il a une façon de créer, de procéder que j'aime beaucoup. Il prend une situation et il la dénoue comme ça, comme un rêve, et il essaie de suivre le fil. Et ça nous donne des œuvres singulières. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce grand homme.
Est-ce que vous voulez citer quelques livres qui vous ont frappé? Pour quelqu'un qui dit que les livres m'ont sauvé aussi, alors quels sont les livres?
Il y a eu plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a eu des livres d'art quand j'étais... en troisième au collège, donc dernière classe de collège, j'ai découvert l'histoire de l'art par des, vous savez, les livres chez Flammarion ou chez Hachette ou Hazan, je sais plus, ou les grands Masneau, des choses comme ça, et d'ouvrir ces livres et de découvrir des livres que j'avais pas chez moi, c'est des livres très chers, avec des tableaux, des reproductions hallucinantes de la Renaissance, c'était magique. Donc il y a eu d'abord la bibliothèque du CDI, donc du centre de documentation. Et ensuite, au lycée, j'étais dans un lycée, un très beau lycée centenaire à Saint-Étienne, le lycée Foriel. Et il y avait une très, très bonne bibliothèque. Et je passais des heures à découvrir des choses complètement diverses. J'étais en seconde, je lisais déjà l'interprétation des rêves de Freud. Je découvrais Spinoza, des choses qui j'avais pas encore les armes pour comprendre, mais ça m'intéressait. Je feuilletais Goethe, le Faust de Goethe, sans vraiment le lire, mais j'étais fasciné.
Mais ça, c'est l'homme complet.
C'était une curiosité, une intrigue. Je disais, mais tout est là, mais je ne savais pas encore les déchiffrer. Et après, petit à petit, en m'intéressant à la littérature, en écrivant, j'avais un journal intime, en allant de plus en plus précisément vers la littérature, j'ai découvert des auteurs comme Marguerite Duras, comme Blanchot, les premiers textes de Philippe Djian qui racontent sa condition de jeune auteur trentenaire, son rapport avec les femmes, avec la société, avec sa culture anglo-saxonne. Le fait d'être pendant 10 heures assis à son bureau, d'avoir mal au dos, des petits détails comme ça de la vie d'un jeune écrivain qui essaie d'écrire, qui se bague des mots et qui en même temps me parle d'Henry Miller. Du coup, ça me fait découvrir Henry Miller. Et tout cet univers-là m'a amené après vers les premiers livres de Paul Auster que j'ai toujours aimé, Moon Palace, Léviathan, La musique du hasard, et puis des auteurs comme Sepulveda ou Artaud. J'ai toujours été très réveillé, très... ravisé par le propos d'Artaud. Comment dire, c'est comme du feu quelque part. J'avais besoin de lire certains auteurs que je viens de citer, et il y en a d'autres, hein, parce que c'est en perpétuel changement. Et puis à chaque époque, il y a des auteurs qui m'aidaient selon ce que je vivais, où j'en étais dans ma vie. C'est aussi concrètement que les livres m'ont sauvé, c'est-à-dire que j'ai toujours eu un peu d'argent pour payer mes études. Je travaillais à côté, j'ai fait plein de petits boulots différents. Et donc, j'avais un petit budget pour acheter des livres. Mais de temps en temps, les livres, je les revendais. Partout où j'ai vécu, je connaissais les bouquinistes. Parce qu'il fallait que je revende des livres, remplir mon frigo, oui. Surtout manger. Et donc, j'ai toujours eu ce rapport un peu de flux, de reflux, de bibliothèque. Donc, j'ai jamais eu une grande bibliothèque, mais toujours un peu la même. Puisque les livres rentraient et sortaient. Et c'était en rapport avec le frigo. Le frigo se vidait, se remplissait.
Mais ça, c'est survécu, alors.
Et du coup, ça faisait un cycle comme ça. C'est dans les deux termes, vraiment dans la spiritualité et dans le concret que les livres sont toujours très importants. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai plus cet appétit vorace de tout lire, de tout, mais plutôt le côté orfèvre, de vraiment lire ce qu'il faut. Je ressens ça aussi. Même par rapport au voyage, c'est comme si... moi, j'aime beaucoup Giacometti, hein, et je trouve que c'est un progrès artistique d'être allé vers l'essentiel comme ça.
Oui.
Parce que c'est une épuration positive. Une épuration positive contre certaines autres épurations. C'est un contrepoids de l'épuration qui fait que... Moi, je me souviens justement de la chapelle Sixtine. Et ce qui m'avait le plus marqué quand je l'ai découverte, c'était vraiment le poids des âmes. C'est-à-dire que les âmes les plus légères passaient. Et c'est vraiment ça, ce côté. Et je le vois aussi par rapport à mes lectures et à mes choix de vie. Je suis quelqu'un d'assez discret, casanier, alors que je vis dans Paris. Je choisis vraiment les choses essentielles à faire. Et il n'y a plus ce côté dispersé. Et ça, c'est aussi la maturité, hein, et la préciosité du temps. Parce que chaque instant est vraiment précieux.
L'interview de Hafid Haghoun a été réalisée par Denis Pereira-Egan pour l'espace auteur du site internet de la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges et Radio France Internationale. À la technique, Georges Pétillot. Pour la post-production multimédia, Chantal de Grandpré, Jean-Claude Dian et Baptiste Chrétien.
Thank you.